Alors bonjour à chacune, à chacun. Merci de vous être déplacés pour ce sujet si d'actualité, si important aussi. On n'est pas nombreux. Plusieurs m'ont renvoyé des messages en disant qu'ils ne pouvaient pas venir, qu'ils écouteraient l'enregistrement. Bienvenue à toi, Philippe. Merci d'avoir pris le temps de venir parmi nous pour nous parler de l'homosexualité. Sujet dont on parle peu et pourtant qui est d'actualité aujourd'hui. Philippe nous vient de l'autre côté de Genève. Ceux qui étaient là au mariage de Florence et Alexis ont fait sa connaissance. Il est le pasteur actuellement de Florence et Alexis, donc dans l'église Action publique de Ville-la-Grand. Je le laisserai donner plus de précisions sur son parcours et sur une petite présentation. Et nous voulons remettre ce moment à notre Seigneur. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons mettre de côté pour t'écouter. Merci pour la disponibilité de Philippe. Merci pour sa présence parmi nous. Veuille le bénir, veuille bénir ce moment. Merci de pouvoir aborder ce sujet de l'homosexualité. Merci parce que c'est un sujet dont on parle peu, mais c'est un sujet important, un sujet d'actualité, un sujet dont on a besoin de savoir ce que la Bible en dit et comment, en tant que chrétien, nous positionner, comment accueillir. Bien Seigneur, nous te remettons ce moment afin que tu sois présent au milieu de nous par ton esprit. Veuille bénir encore Philippe, merci. Amen.
Eh bien bonjour. Merci d'être là, vous êtes très courageux, je trouve. Vous avez dû raccourcir le barbecue ou le reporter à demain, c'est ça? Merci, je me réjouis en tout cas de passer cette fin d'après-midi, début de soirée avec vous et puis avec des prolongations avec le groupe de jeunes tout à l'heure. Donc je m'appelle Philippe Anchaud, j'ai 44 ans, je suis marié depuis 24 ans avec la même femme, parce qu'elle est formidable. Elle s'appelle Heidi. Remarque que même si elle n'était pas formidable, l'engagement valait le coup, mais elle est formidable. Nous avons deux enfants, Laura qui a 18 ans et Elliot qui a 15 ans. Je suis depuis juin 2000 pasteur de l'église Action publique de Ville-la-Grand en Haute-Savoie, mais là en transition de ministère avec un nouveau choix qui devrait s'opérer dans les semaines ou mois qui viennent. Nous abordons effectivement donc ce sujet d'un regard chrétien sur la question de l'homosexualité. On va le faire cet après-midi en deux temps, entrecoupé, j'espère, de questions, témoignages, remarques. Vous avez le droit de me rentrer dans le cadre aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je crois donc que les interventions sont enregistrées. Si vous préférez le format papier, je peux également vous envoyer un PDF avec des notes, peut-être même plus complètes finalement que ce que j'aurai le temps d'aborder en deux fois, une heure et quart, 1h20. Mais vous aurez au besoin, si vous le souhaitez, des notes complètes. C'est un sujet délicat, ou en tous les cas qui mérite de la délicatesse. C'est un sujet qui m'a interpellé essentiellement à cause ou en raison de mon activité pastorale à Ville-la-Grand et puis de la poursuite de mes études, où j'ai été amené à faire un master en éthique. Et ce sujet spécifiquement de l'accueil des personnes homosexuelles était l'objet de mon travail. Je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'on prenne le temps. Il me semble qu'un des travers du monde chrétien ou évangélique est de vouloir finalement régler cette question au travers de deux ou trois versets bibliques qui nous viennent en tête immédiatement quand nous pensons à la question de l'homosexualité ou de l'accueil des personnes homosexuelles. Et je vous suis reconnaissant de me donner cet après-midi le temps de le faire. Ça va jusqu'ici ? C'est pas trop chaud? Enfin, vous êtes chez vous, hein, vous connaissez la maison. Alors que nous abordons donc ce sujet de l'homosexualité, et d'un regard chrétien sur l'homosexualité. Je cherche toujours, quelles que soient mes interventions, les mots capables d'introduire une réflexion sur un problème éthique tellement important qu'il me semble de plus en plus constitué comme une sorte de champ de bataille où va s'affronter les forces qui cherchent à façonner le monde du XXIe siècle. Les mots. Et pourtant, ce qui apparaît d'abord devant mes yeux, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des concepts, ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des visages. Parce que malgré les prises de position politiques, sociales, religieuses, malgré nos médias qui présentent le tout à la sauce grand public, rien n'empêche des hommes et des femmes, chaque homme et chaque femme, de vouloir aimer et vouloir être aimé. C'est le propre de l'homme, de la femme. Vouloir être aimé et vouloir aimer. Et certains, certaines, vont aller chercher l'amour chez des personnes de leur propre sexe, des visages, des gens, des hommes, des femmes qui ont un visage, qui ont un prénom, un nom, une histoire, qui sont parfois chrétiens, chrétiennes, et qui tous et toutes méritent notre attention. Et finalement, cet après-midi, quelles que soient les conclusions auxquelles nous allons parvenir, quant au problème vaste que soulève leur histoire, je vous propose d'emblée que nous ne devons jamais perdre de vue ni leur combat personnel, ni leur souffrance personnelle, ni leur histoire personnelle, ni leur visage. Si nous laissons de côté ces visages, si nous laissons de côté les personnes, alors nous laissons de côté l'Évangile, duquel nous nous réclamons. Parce que l'Évangile, ce ne sont pas des concepts, ce ne sont pas des slogans, c'est un message qui s'adresse aux personnes. Je fais partie de ceux qui croient que l'Évangile est une puissance de guérison, une puissance de salut, une puissance de transformation. Mais avec le temps, quelques années de pratique, j'ai réalisé que le remède que constitue l'Évangile n'est pas un remède qui s'administre à coup de livre, à coup de vote ou à coup de verdict. L'Évangile s'administre avec de la délicatesse, avec de la grâce et avec du respect. Et seulement à celui ou celle qui est consentant. Le temps des croisades est terminé. Je connais personnellement plusieurs personnes homosexuelles, dans les milieux chrétiens, comme en dehors de ces milieux. Si j'avais beaucoup de temps devant moi, je pourrais vous rapporter leurs histoires personnelles, qui mériteraient toutes d'être entendues. Ce sont des hommes et des femmes que je connais, que j'ai connus. Ce sont des visages que je revois à l'instant même où je vous le dis. Ce sont des visages auxquels je pense alors que nous allons aborder le sujet délicat de l'accueil des personnes homosexuelles. Ça va ? Quand on aborde cette question, il nous faut essayer de régler quelques questions de vocabulaire. Et je commence avec ça. Le choix des termes. Différents termes peuvent être utilisés. Homosexuel, gay, lesbienne, relations sexuelles entre personnes du même sexe, LGBT. La plupart des gays et lesbiennes que je connais considèrent le terme homosexuel comme un terme clinique. Ça ne leur convient pas trop. Le terme homosexuel a été créé linguistiquement à l'origine par des médecins allemands. Et ils ont créé le terme homosexuel pour désigner une maladie, une anormalité, par opposition à l'hétérosexualité, considérée, elle, comme normale ou saine. En même temps, les adversaires des relations sexuelles entre personnes de même sexe n'aime pas trop non plus le terme homosexuel. Parce que pour eux, le terme homosexuel, c'est comme mettre une sorte d'étiquette respectable sur la question de l'homosexualité. Ça semble conférer une légitimité à la pratique homosexuelle. Il y aurait l'hétérosexualité et il y aurait l'homosexualité à égalité. Et puis d'autres encore reprochent à ce terme d'être simplificateur, encore une fois, parce qu'associé à l'hétérosexualité, pour ces personnes, ça ne va pas trop d'utiliser le mot homosexualité parce que ça n'implique que deux options plutôt que toute une série d'options, comme la bisexualité par exemple. Gays et lesbiennes sont les termes que préfèrent en général ceux et celles que ces termes désignent. Mais les militants les plus engagés préfèrent aujourd'hui se qualifier de queers. En anglais, signifie bizarre, étrange. Et on en est venu à utiliser ce terme pour désigner une personne homosexuelle de façon péjorative, voire vulgaire. Pardonnez-moi le vocabulaire, mais ça correspondrait au mot français de pédé, de gouine. Eux préfèrent utiliser ça, queers. Ce sont des militants engagés et ils préfèrent utiliser ces termes par dérision. Ils coupent l'herbe sous les pieds de leurs persécuteurs. Personnellement, je vais choisir d'utiliser les termes d'homosexuel, de personne homosexuelle et d'homosexualité. Ça va ? Vocabulaire ? Nous sommes dans une controverse sur la question de l'homosexualité, en tout cas chez nous les chrétiens, et on assiste assez régulièrement à des débats qui opposent d'un côté des gays ou des lesbiennes qui racontent avec beaucoup d'émotion les victoires qu'ils ont remportées sur leurs propres doutes ou qui vont en venir à raconter les persécutions dont ils ont été l'objet, par exemple chassés par leur famille, mis à la porte, à la rue. Et puis d'un autre côté, dans ce débat, vous avez ces hommes d'église, ces hommes de Dieu, froid, rationnel, qui se contente d'asséner des versets qui condamnent les péchés sexuels et qui annoncent le jugement éternel. Et vous avez ces deux camps en présence. Là, ça va. J'ai l'impression que j'ai un auditoire bienveillant. Mais quand j'aborde cette question dans d'autres cadres, plus libéraux, dans des GBU, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Là, personne ne m'a interrompu, hein. Mais normalement, à ce stade-là, il y a déjà eu plusieurs interruptions. Et que ça plaise ou non, les spectateurs de ces débats vibrent généralement plutôt aux histoires émouvantes. Les spectateurs de ces débats prennent plutôt le parti du plus faible, du perdant, du persécuté. C'est naturel. Et puis en plus, comme la valeur reine de notre culture moderne, ce n'est pas la vérité, mais c'est la tolérance. Quiconque prend le parti aujourd'hui de désapprouver le comportement d'autrui se trouve plutôt condamné à sortir perdant du débat. Mais moi, je veux tenter le débat, la réflexion, et quelque part, j'ai la folie de penser qu'on peut sortir changé d'une réflexion de fond. Se faire donc une opinion, déjà, sur la question de l'homosexualité, c'est pas si facile. Quantité d'arguments différents en présence, et nous ne pourrons pas les examiner tous en détail, alors, schématiquement. Schématiquement, il y a ceux qui sont pour l'homosexualité. Radicalement pour. Ceux et celles qui vont revendiquer un droit à, un droit de, ceux et celles qui vont organiser ces manifestations en faveur de la cause homosexuelle, ceux et celles qui ont parfois une action lobbyiste. Vous avez déjà vu ces manifestations plus ou moins bon enfant, où on affiche sa différence sans gêne, au sein d'une société qu'on veut sans tabou, une société offerte à tout, sans limite, ni morale, ni légale. Ce que tu veux faire, fais-le. Ta faim, mange, ta soif, bois. Va au bout de ce que tu es. Sois ce que tu es, montre-le. Ça choque, tant pis. Les pour. Et en face d'eux, les contre. Parfois tout aussi radicaux. Les contre qui le sont viscéralement, par dégoût, par aversion de ce mode de vie ou simplement par principe, parce qu'ils n'arrivent pas à admettre cette orientation homosexuelle. Ils vont dire, eux, cette perversion. Cette attitude, quand elle est poussée à l'extrême, l'attitude des contres, poussée à son extrême, c'est ce qu'on appelle l'homophobie. Si on veut examiner le problème avec sérieux, il faut donc se donner du temps pour la réflexion, il faut essayer de chasser certaines idées préconçues. En tout cas, il faut chasser les caricatures, chasser le mépris, chasser les jugements hâtifs, le rejet pur et simple de l'autre parce qu'il est différent. Quand j'ai abordé il y a plusieurs années l'étude de ce sujet, je me suis rendu compte qu'il était non seulement complexe, et ceux qui font un peu de théologie aiment bien ce qui est complexe, ça leur occupe la tête. Mais au-delà de la complexité théologique, ce que j'ai réalisé, alors plus en tant que pasteur berger, c'est que le sujet même occasionnait beaucoup de souffrance. Pour les personnes directement concernées, pour leurs proches, pour leurs familles, leurs parents, parfois pour leurs enfants. Alors je sais qu'on pourrait être tenté, et nous les évangéliques on est assez pro pour ça, hein, on pourrait être tenté d'aborder le thème avec un peu de dureté, avec un esprit de jugement marqué, surtout si soi-même on a le bonheur de ne pas être concerné par le sujet. Ni chez soi, ni dans sa famille, ni dans ses amitiés, ni dans son église. Là, on peut l'aborder avec une certaine dureté. C'est un petit peu comme, toute proportion gardée, la question du divorce, du remariage. Toujours facile d'en parler. Quand soi-même, dans sa famille, dans son église, chez ses amis, personne n'a jamais été impacté. Mais quand on est impacté, d'une manière ou d'une autre, on se dit, purée, il y a des gens qui morflent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui auraient besoin de la grâce. De la grâce du Seigneur et de la grâce des hommes et des femmes. Quand on est concerné ou qu'on a simplement passé du temps avec des personnes qui le sont, il n'est plus question d'y aller à la légère avec des formules à l'emporte-pièce et des jugements trop tranchés. On sait que le problème peut être très douloureux et que de s'y consacrer dans un esprit chrétien est un exercice difficile. On n'est jamais, nous chrétiens, à l'abri d'une erreur de jugement ou de perspective. Ce que j'essaie de faire quand je réfléchis et quand je partage à propos de ce sujet-là, c'est de garder une sorte d'équilibre entre la vérité et l'amour. Je veux essayer d'étudier ce que la Bible dit à ce sujet. Essayer de comprendre aussi dans quel contexte historico-religieux elle le fait et ce que nous pouvons conclure pour nous aujourd'hui. Ça va ? N'est le coup ? Purée. Pendant des siècles, notre monde dit chrétien a éludé la question de l'homosexualité. Et quand, malgré tout, ce monde chrétien, évangélique, a essayé de l'aborder, c'était souvent de manière radicale, sans discussion possible. C'est un privilège, ce qu'on fait cet après-midi, un privilège. Hein. Et je trouve que le seul fait que vous consacriez en tant qu'Église une après-midi de réflexion, je vais vous le dire franchement, c'est pas souvent dans le monde évangélique. C'est rare. C'est presque unique. Merci. Bravo. Jusqu'il y a peu, excusez-moi le vocabulaire, hein, ceux qui étaient reconnus de sodomie pouvaient être condamnés à mort. C'est toujours le cas dans certains pays, y compris proche de l'Europe, la Turquie par exemple. Cette attitude me semble excessive. On chassait l'homosexuel comme on chassait avant lui l'hérétique, la sorcière ou le communiste. C'était pour les porter au bûcher, hein. Sans compter toutes ces amalgames qui sont souvent faites et qui sont fausses, homosexuel égale pédophile. C'est pas vrai. Combien de pédophiles ne sont pas homosexuels ? Et combien d'homosexuels ne sont pas pédophiles ? Attention, c'est un raccourci. De nos jours, on commence à aborder le problème avec un petit peu plus de sérénité, et c'est heureux. Mais quand même, dans les milieux chrétiens évangéliques que je connais, on préfère encore éviter le sujet, on préfère jeter une sorte de voile pudique sur un comportement qui est considéré comme étant trop laid pour être même abordé en Église. Alors on laisse les non-chrétiens en parler. Pour nous, où on laisse des responsables religieux de tendance ultra-libérale, moderniste, en parler, même si finalement les conclusions qu'ils apportent ne vont pas du tout dans le sens de la fidélité aux enseignements des Écritures, fidélité que nous réclamons pourtant. Il ne faut pas lâcher le terrain. Nous devons occuper le terrain, tous les terrains. Il n'y a aucun sujet que les chrétiens évangéliques ne devraient laisser sur le côté, à commencer par celui-ci. Donc, je crois qu'il faut essayer de se faire une opinion fondée sur la parole de Dieu, en évitant à la fois les pièges du sentimentalisme, comme ceux du libéralisme, qui parle beaucoup d'amour, d'acceptation d'une différence, mais sans souci réel de la vérité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons au moins une bonne raison pour aborder le sujet de l'accueil des personnes homosexuelles. Ce sont les revendications mêmes des personnes homosexuelles pour une reconnaissance de leur droit à la différence, avec la possibilité de se marier, la possibilité d'adopter des enfants ou d'en faire porter par d'autres. Tout ça, ça nous oblige à examiner leurs exigences pour que nous ayons semblant de réponse au moins à offrir dans nos églises. Et puis, certaines personnes homosexuelles se présentent ou se présenteront aux portes de nos églises en recherche, désireux de se confier à Dieu. Quel accueil allons-nous leur réserver? Quelle réponse allons-nous leur donner? Quelles exigences allons-nous leur présenter? Pour tenter de donner des réponses valables à ce type d'interpellation, encore une fois, nous devons revenir, et nous allons le faire, nous devons revenir à la parole de Dieu, qui a beaucoup de choses à dire, non seulement sur l'homosexualité, mais plus encore sur la sexualité, sur les déviations possibles. Il faut s'inspirer donc de l'enseignement biblique, non seulement pour dénoncer ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais avant cela, pour réaffirmer ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon dans son projet pour les hommes et pour les femmes. Des êtres dotés de sexualité. La sexualité, c'est une composante à part entière de notre personnalité. Quand nous parlons donc d'homosexualité, on aborde un vieux problème, déjà présent du temps de Sodome et Gomorre, déjà présent du temps de la Rome antique ou de la Grèce antique. Quantité d'études sociologiques, ethnographiques, je vous fais grâce des références, mais vous les avez dans les notes, montrent que le comportement homosexuel touche toutes les sociétés, toutes les cultures, toutes les races, à toutes les époques. On sait aussi que la pratique homosexuelle n'est en rien liée à certaines professions ou à certains milieux intellectuels ou artistiques. C'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les classes sociales. En termes de chiffres, une opinion assez répandue affirme que 10% des hommes et 5% des femmes sont directement concernés par la question. Les sociologues donnent souvent des chiffres un peu inférieurs à ceux-ci, surtout en considérant les personnes qui pratiquent l'homosexualité. Vous connaissez probablement John Stott. Dans un article important sur les couples homosexuels, il mentionne, et c'est une étude relativement récente, que 4% des Américains ont des pratiques uniquement homosexuelles toute leur vie. 10% durant 3 années au moins de leur vie. Et que 37% ont eu une forme d'expérience homosexuelle entre l'adolescence et la vieillesse. Les sociologues admettent cependant que même les enquêtes les plus sérieuses ne peuvent que donner des chiffres approximatifs parce que le sujet est tellement délicat que les réponses aux questions s'en ressentent. On n'ose pas toujours répondre si l'on est sondé. Et puis il faut reconnaître que tous les homosexuels ne le sont pas de la même manière. Il n'y a pas qu'un type d'homosexualité masculine ou féminine. Je vais me ranger là derrière un spécialiste qui partage les homosexuels en 3 groupes au moins, Eric Schmid. Il dit qu'il y a ceux qui choisissent ou qui ont choisi l'homosexualité par défi à l'ordre établi. qui font un choix. Ils veulent modifier ce que la société reconnaît comme étant naturel entre un homme et une femme. Pour Schmid, il y a ce goût chez certains pour une chose interdite, ce goût pour la défiance sociétale, l'opposition à la société bien-pensante, attrait aussi pour l'inhabituel, la recherche d'expériences d'excitation sexuelle nouvelle. Premier groupe. Schmid dit qu'il y a ceux qui tombent dans l'homosexualité du fait de leur cadre de vie. Je serai plus prudent, mais je le cite là. Il cite des détenus dans des prisons, des pensionnaires d'internat, certains qui se laisseraient entraîner plus ou moins volontairement par des comportements homosexuels du fait d'une grande solitude affective. Schmid dit que d'une manière générale, on estime que l'absence prolongée de personnes de l'autre sexe peut conduire à des comportements homosexuels ou les encourager. Et puis, il y a celles et ceux qui sont d'une certaine manière victimes de ce que Schmid appelle une inversion de leur sexualité. L'inversion sexuelle, elle est définie médicalement comme une anomalie psychique ou génétique qui porte quelqu'un à n'éprouver d'affinité sexuelle que pour un être de son propre sexe. Ce serait inscrit, semble-t-il, dans leur chair et dans leur esprit. Et j'utilise « semble-t-il » parce que les avis sont partagés sur la question. Il y a bien des chercheurs qui penchent, pour une homosexualité héritée dans les gènes. Et il y a ceux qui pensent qu'elle est plutôt acquise avec le temps ou qu'elle est plutôt favorisée par des expériences plus ou moins traumatisantes de la petite enfance. C'est ce qu'on appelle le débat entre l'inné et l'acquis. Mais le fait est, donc, que des personnes ne trouvent pas de satisfaction affective avec des personnes de l'autre sexe. Ils ne savent bien partager qu'avec quelqu'un du même sexe qu'eux, dont ils recherchent l'affection en vue de l'épanouissement de leur personnalité. Certains regrettent d'être ainsi faits, certains semblent souffrir beaucoup, mais ils disent « c'est plus fort que moi, je suis fait comme ça, j'ai pas choisi, c'est ma vie, c'est ma personnalité, c'est mon orientation ». C'est moi. Et au sein même de chacune de ces catégories, on va distinguer entre ceux qui recherchent des expériences multiples, et il peut y avoir dans ce domaine des comportements aberrants, et ceux qui aspirent à une relation stable, quasi conjugale. Ainsi, les attentes, les attitudes, les causes peuvent être, vont être, très différentes d'un individu à l'autre. Ce n'est pas toujours évident d'y voir clair. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça va ? Donc, quand je cherche, moi, en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que pasteur, à comprendre... Quand je cherche des réponses, je me dis qu'il faut commencer par l'humilité. Il faut commencer par reconnaître l'étendue et la variété des situations et des problèmes posés par notre sujet. On va avoir en face de soi des personnes qui s'affichent ouvertement et fièrement comme homosexuelles. On peut en rencontrer d'autres qui savent très bien vers quoi elles penchent et qui en souffrent. Pour elles, ne pas passer du penchant à l'action, c'est un perpétuel combat. Elles se sentent seules avec leurs problèmes. C'est tellement difficile de partager, et c'est encore plus difficile de partager dans l'Église. Et puis il y a aussi ces personnes qui ne savent pas où elles en sont, qui ressentent comme des troubles, qui se cherchent sans savoir de quel côté exactement elles vont tomber. Sont-elles plus à l'aise avec celles ou ceux du même sexe qu'elles ou avec celles ou ceux du sexe opposé? Il peut y avoir des périodes de flottement, par exemple à la crise de l'adolescence. C'est assez courant. Au moment où la personnalité s'affirme, il y a donc des choix à confirmer, il y a des tentations à repousser, dans le domaine de la sexualité aussi. Hein. Et n'oublions pas non plus ceux qui, vivant cette inversion de leur sexualité, ne vivent pourtant pas en homosexuel, qui ont des tendances, des prédispositions, mais qui cherchent à tout prix et qui réussissent parfois à y résister victorieusement. Dans l'esprit de beaucoup de gens, être tenté par l'homosexualité, c'est déjà être homosexuel. Je trouve que c'est là un jugement qui est bien cruel, bien injuste. Dans la réflexion sur l'homosexualité, il est nécessaire de faire la différence entre l'être et le faire. Entre l'identité et le comportement de la personne, entre sa préférence et sa pratique, entre sa constitution et sa conduite. On va probablement en reparler un peu plus en détail, mais nous pouvons déjà dire là que la Bible déclare très clairement, ce n'est pas le fait d'être tenté qui est mal, c'est le fait de succomber à la tentation qui devient péché. Jacques 1, versets 14 et 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça va ? On va regarder un petit peu les données bibliques maintenant. D'abord, que dit l'Ancien Testament ? Il y a deux récits qui abordent, semble-t-il, directement ce problème. Genèse 19 et Juges 19. Le premier récit concerne les populations de Sodome et Gomorre au sujet duquel il est écrit, au sujet desquels, pardon, il est écrit, Genèse 13, verset 13 par exemple, ces gens étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ou Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Nous avons Genèse 19, 1 à 8, qui nous montre Lot face à une foule lubrique, corrompue, qui voulait connaître ses visiteurs. Genèse 19, verset 5. Ces visiteurs qui sont des envoyés de Dieu. Connaître. Nos Bibles sont pudiques en français. Elles le sont un peu moins en hébreu et en grec. Mais en français, elles sont pudiques. Le verbe hébreu traduit pudiquement par connaître, il a dans le langage biblique un sens un peu plus précis. Hein. Trois versets plus loin, par exemple, il n'y a pas d'ambiguïté. Les filles de Lot qui n'avaient point connu d'homme. Quand on lit connaître, il faut lire relations sexuelles, pas une rencontre avec un gars, des relations sexuelles. Donc, Cette foule corrompue et lubrique qui voulait connaître les visiteurs de Lot avait un désir ouvertement sexuel. Ce qu'il voulait, c'était coucher avec les visiteurs de Lot. Et Lot, d'ailleurs, pour lui, il n'y a pas de doute. Bon, il n'avait pas de problème de traduction à l'époque. En tout cas, il le comprend bien, puisqu'il va faire un truc absolument dingue, enfin, quand nous le disons à distance, hein. C'est que plutôt que de livrer ses visiteurs à cette foule, il leur propose ces jeunes filles vierges, plutôt que les visiteurs. Respect des règles d'hospitalité qui impliquaient la protection des hôtes coûte que coûte, et puis certainement un peu de patriarcat. Mais avant d'en arriver aux actes, les gens de Sodome sont frappés d'aveuglement, verset 11. Comment pouvons-nous être sûrs que le récit de Genèse 19 peut être considéré comme une condamnation, entre autres choses, de la pratique de l'homosexualité? Je vous propose que c'est le Nouveau Testament qui nous aide. Jude, au verset 7, « Sodome et Gomorre se livrèrent à la débauche et à des vices contre nature, subissant la peine d'un feu éternel. » Ça va ? Le problème qui s'est posé à Gibéa maintenant, Juge 19, verset 20, il est très semblable à celui décrit à Sodome du temps de Lot. C'est encore une sombre histoire, et ce qu'on va juste faire, c'est prendre le temps de la lire quelques instants. Juge 19, et on prend ensemble les versets 16 à 30. Juge 19, les versets 16 à 30. Voici qu'un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était des monts d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa, tandis que les gens du lieu étaient benjaminites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Le vieillard lui dit « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit « Nous passons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité des monts d'Éphraïm, d'où je suis. » J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me recueille dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous n'avons besoin de rien. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce qu'il te faut. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds. Puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici que des hommes de la ville, des Vauriens, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme, je les fais sortir. Faites leur violence et agissez envers elles comme il vous plaira. Ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude. Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin, mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi et allons-nous-en !» Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari l'a mis sur son âne et parti pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Il y a des récits impressionnants hein, dans la Bible. Puis, ouais. Voilà donc cet étranger en visite. Et encore une fois, une foule de gens pervers qui veulent connaître ce visiteur. C'est la concubine de ces derniers qui leur est livrée. Et elle en meurt après avoir subi les pires outrages. Dans la suite du récit, tout Israël organise une expédition punitive contre les meurtriers pervers de Gibéa et la tribu de Benjamin perdra 25 000 hommes. Juges 20, verset 46. Donc, deux récits où l'homosexualité des enfants jusqu'aux vieillards de Sodome ou l'homosexualité des gens pervers de Gibéa a certainement été l'une des causes du châtiment de ces deux villes. Ce n'était pas seulement les lois sur l'hospitalité qui étaient bafouées dans ces villes, mais nous y trouvions des perversions violentes qui étaient tolérées. Maintenant, ces deux textes-là qui dépeignent, si durement les excès dont les hommes sont capables ne suffisent pas, à mon sens, pour justifier une condamnation de l'homosexualité en tant que telle. Parce que, à mon sens, on ne peut pas assimiler des viols perpétrés avec violence avec l'homosexualité vécue entre deux personnes pleinement consentante, qui affirme s'aimer et se respecter réciproquement. Comprenons-nous bien, je ne dis pas que ces textes ne sont pas inspirés, je ne dis pas qu'ils ne condamnent pas l'homosexualité violente, mais ils ne me semblent pas suffisants en tant que tels, ces textes-là, pour condamner une homosexualité qui ne serait pas violente. Il me semble que ces deux textes n'ont rien à voir avec l'homosexualité qui veut être reconnue aujourd'hui et qui est souvent décrite comme un acte d'amour authentique. Et honnêtement, est-ce que l'amour authentique peut-être doit être considéré au même rang qu'un viol ? Il faut se poser la question. Mais ce n'est pas les seuls textes. Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament qui évoquent l'homosexualité pour la condamner. Dans la loi de Moïse, Lévitique 18, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Lévitique 20, verset 13, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » On peut dire aussi que le travestissement est condamné. Deutéronome 22, verset 5. Dans les livres historiques, par exemple, 1 Roi 14, verset 24, « Il y eut des prostituées mâles dans le pays. » Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ou alors, 1 Roi 15, verset 12, « Assa ôta du pays les prostituées et fit disparaître les idoles que ses pères avaient faites. » Ou encore, 22, 46, « Josaphat ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore. » La prostitution homosexuelle qui est pointée ici, elle a un caractère religieux. C'était une pratique homosexuelle, prostitution, qui imitait les cultes idolâtres des nations environnantes, et en particulier le culte cananéen de la fertilité qui comportait quantité de rites de prostitution sacrée avec des prostituées hommes et femmes. La loi de Moïse condamnait donc très clairement l'homosexualité. Très clairement. Comme elle condamnait de la même manière l'adultère, l'idolâtrie, les relations sexuelles hors mariage, la prostitution, le travestissement, l'inceste et même la zoophilie. Toutes ces choses, disent nos textes, sont des abominations pour Dieu. C'est un éloignement, une confusion sévère par rapport à la volonté de Dieu concernant la sexualité. C'était autant de pratiques rejetées par la loi de Dieu. Même si ces déviations se pratiquaient entre des personnes non mariées qui s'aimaient et qui s'adonnaient volontairement à ces relations sexuelles hors mariage. Parce qu'en fait, en éthique sexuelle, tout acte sexuel vécu hors des liens légitimes du mariage hétérosexuel est un acte explicitement condamné par la loi de Dieu. C'est dur, j'ai de la peine à l'entendre, mais c'est incontournable. La sexualité, dans l'éthique sexuelle prévue par Dieu, est réservée entre un homme et une femme dans le cadre surprotégé du mariage. Mais je ne peux pas mettre sur les textes que nous avons lus ou cités plus de culpabilité sur l'homosexualité que sur l'adultère. Je ne peux pas mettre plus de culpabilité sur l'homosexualité que sur les relations sexuelles hors du mariage, ou l'inceste, ou la prostitution hétérosexuelle, ou même la zoophilie. Ça va ? On y va, hein ?
Ouais, juste là, c'est là, ça,
merci.
Ça, ça me gêne un peu.
Je comprends.
C'est deux versets où c'est dit justement que pour la zoophilie et l'homosexualité, que c'est une abomination.
Oui.
Ce n'est pas dit avant.
Oui.
Et tu l'as dit pour Sodome et Gomorre, c'était les plus grands pécheurs, c'était des grands pécheurs. Comme si, moi, je comprends qu'il y a une nuance quand même à ce niveau-là, quand même au niveau du degré de péché. Et ça justifie justement le geste que tu as vu de Gibéa et de Lot. Pour moi, ça justifie parce qu'il a préféré finalement que, même si c'était un crime, parce qu'il n'est pas un crime par rapport à des relations hommes-femmes, mais non désirées, finalement, ils ont préféré orienter la relation sexuelle avec une femme qu'avec l'homme. Et dans les deux cas, bien sûr, c'est dramatique.
Ouais.
Mais pourquoi il y a cette nuance et pourquoi à la fois Lot et
Gibéa
ont orienté vers la femme plutôt que vers l'homme?
Alors, je n'ai pas de réponse à cette question et le texte biblique n'en a pas.
C'est là quand même l'enjeu.
Je comprends que l'enjeu est là. Je pense que si on va au bout de notre survol, il y aura peut-être quelques éléments de réponse complémentaires. Le mot d'abomination qui est utilisé est aussi utilisé ailleurs, par exemple pour des pratiques religieuses. Alors, oui, pour l'adultère, entre un homme marié et une femme mariée. Le même mot est utilisé. Mais est-ce que je vais jusqu'au bout et puis, mais je comprends. Hein, j'ai aussi ce doute si je ne m'arrêtais qu'à l'Ancien Testament. Mais si je peux, on essaie de finir le parcours jusqu'au Nouveau. Maintenant, je comprends et je peux laisser la place au doute. Vraiment. J'essaie d'aller jusqu'au bout sur le Nouveau Testament. Merci, merci. Dans les évangiles, Je note que Jésus n'a jamais mentionné cette question. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'importance. Par contre, il avait beaucoup à dire, lui, sur l'hypocrisie, sur l'orgueil, sur la cupidité, sur l'égoïsme, sur le manque d'amour, sur le manque d'esprit de pardon. Il dit, Matthieu 15, verset 19, que ce sont des péchés qui souillent l'être tout entier. Le Seigneur Jésus rappelle plusieurs fois les lois morales, il rappelle plusieurs fois les 10 commandements, et il affirme qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, la porter à son paroxysme. Et je suis convaincu que l'éthique sexuelle fait partie des lois que le Seigneur Jésus est venu porter à la perfection. Si Jésus ne parle pas directement de la question de l'homosexualité, mon interprétation, mais c'est une interprétation, c'est que probablement le problème de l'homosexualité se posait moins dans le contexte juif qui était le sien, parce que la loi même condamnait rigoureusement l'homosexualité comme d'autres péchés de la chair. Mais le problème était moins prégnant dans le contexte juif que dans le contexte gréco-romain. Dans les Épîtres, le contexte historique dans lequel l'apôtre Paul accomplit son ministère est différent de celui de la Palestine. On n'est donc pas étonné qu'il ait, lui, des choses à dire sur ce sujet. Le contexte gréco-romain offrait beaucoup plus que le monde juif le triste spectacle du dérèglement des mœurs, dans lequel l'homosexualité tenait, semble-t-il, une place de choix. Et il apparaît aussi, à la lecture des Épîtres, que les chrétiens qui sont issus des milieux païens risquaient d'avoir une attitude un peu plus permissive à ce sujet que les chrétiens qui venaient du judaïsme. D'où les paroles de Paul aux Romains, les paroles de Paul aux Corinthiens. Ils sont exposés à ces sujets particulièrement dans leur environnement. Je retiens 3 textes. Le premier, il est dans Romains 1. Nous connaissons bien ce texte qui est important. Romains 1, les versets 22 à 27. Que je lis rapidement. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Paul démontre ici que la nature pécheresse de l'homme se manifeste de manière subtile ou grossière, mais toujours en opposition à Dieu, à la loi de Dieu, et cela, dit Paul de manière, verset 20, inexcusable. C'est inexcusable. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et une troisième lecture, 1 Timothée 1, les versets 9 à 11. 1 Timothée 1, 9 à 11. Que l'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Quelques mots sur les termes que Paul emploie ici en rapport avec notre sujet. Impudique, en Corinthiens 6, 10, 1 Timothée 1, 10, en grec pornos. Un pornos, c'est un débauché. C'est un homme qui prostitue son corps et qui le loue à la convoitise d'un autre. Un homme qui se complaît dans une relation sexuelle illicite. Un autre terme, c'est 1 Corinthiens 6, verset 10, efféminé, malakoi en grec. Un malakoi dans toute la littérature grecque, c'est un garçon qui a des relations homosexuelles avec un homme. C'est un prostitué mineur mâle. Et ce terme décrit aussi de manière très précise dans toute la littérature grecque des jeunes garçons impubères qui jouent un rôle passif dans une relation homosexuelle. Et puis nous avons le mot infâme. Romains 1, 27, 1 Timothée 1, verset 10. Arsenekotai, c'est l'association de deux mots grecs qui signifient mâle et rapport sexuel. C'est celui qui se lie à un homme comme il l'aurait fait avec une femme. Un terme qui décrit de manière précise pour les Grecs l'homme qui a un rapport actif dans une relation homosexuelle. Les termes de la condamnation dans les lettres du Nouveau Testament sont sans ambiguïté. Pour tourner la question comme on veut, c'est sans ambiguïté. L'homosexualité est condamnée. Mais je note deux choses importantes. Aucun de ces textes ne décrit la situation de personnes qui, tout en étant tentées par l'homosexualité, auraient une conduite irréprochable malgré leur penchant. Ces textes ne condamnent pas un état, mais ils condamnent tous des actes précis et essentiellement la sodomie. De plus, comme pour l'Ancien Testament, la condamnation de l'homosexualité active vient en même temps que la condamnation d'autres péchés, comme l'ivrognerie, comme la cupidité, comme le vol, comme le mensonge. Des péchés qui sont tout aussi contraires, dit le texte, au royaume de Dieu. Tout aussi contraires à la saine doctrine. Ces textes du Nouveau Testament ne m'aident pas donc à distinguer entre des pervertis et des invertis. Ces textes ne m'aident pas à faire la différence entre ceux qui pourraient faire autrement mais qui choisissent la perversion, l'attrait pour l'interdit, et ceux qui, par nature, peut-être par naissance, sont attirés par des relations homosexuelles, l'idée de l'hétérosexualité leur étant complètement étrangère. Il me semble que l'homosexualité doit être envisagée donc à la lumière du contexte créationnel de la sexualité. Dieu qui veut que la sexualité s'exprime uniquement, exclusivement, dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. On va en parler un peu ce soir avec le groupe de jeunes, parce que je pense qu'il faut avoir une conception positive de la sexualité avant de dénoncer ce qui nous semble être, à juste titre, je crois, des dérives. Et la conception positive de la sexualité, c'est le plan original de Dieu pour que la sexualité se vive et se développe. Un homme, une femme, le cadre du mariage. Tout le reste sort du plan original de Dieu. Le fait de s'aimer entre homosexuels, le fait d'être consentant entre homosexuels, ne change rien au fond du problème. Ce type de comportement est, comme tout autre péché, une des conséquences de la chute. C'est un refus de la norme divine pour le couple et la sexualité. C'est un brisement de la loi morale. Et comme péché, ça attire sur le pécheur, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas changement de vie, une condamnation de la part de Dieu. Le fait de se sentir à l'aise dans l'homosexualité, le fait de s'y sentir libre, ne change pas la nature du problème. Se sentir à l'aise en se moquant de ses parents au lieu de les honorer, ça ne rend pas les choses licites. Être voleur par nature ne rendrait pas l'acte de voler à l'étalage licite. Être pédophile par nature ne rend pas l'abus d'enfant licite. Dire que quelque chose est plus fort que moi n'enlève rien à ma responsabilité quand je le fais. Mentir, même en toute bonne conscience, ne rend pas le mensonge licite. Dire que quelque chose est plus fort que moi n'enlève rien à ma responsabilité quand je le fais. Et ça s'adresse à tous les pécheurs, aux menteurs, aux voleurs, aux calomniateurs, aux colériques, à l'orgueilleux, aux cupides, aux diviseurs, à l'idolâtre, à l'adultère, comme à celui qui pratique l'homosexualité. Que l'homosexualité soit donc le fait d'une perversion ou le fait d'une inversion de nature, n'en reste pas moins, je le crois profondément, contraire à la volonté de Dieu. Que quelqu'un pratique l'homosexualité comme une perversion ou comme une inversion de sa nature, c'est la nature pécheresse de l'homme qui est en cause, à divers degrés, mais de manière incontournable. Un perverti, un inverti, se retrouve comme n'importe quel autre pécheur face à la terrible puissance du péché, qui bouleverse l'être tout entier, qui le blesse, qui le déforme, qui l'aveugle, qui le bloque, même quand il voudrait faire le bien et qu'il découvre que le mal reste attaché à lui. Le texte que nous avons lu dans 1 Timothée 1, les versets 9 à 11, montre l'étendue des dégâts provoqués par le péché. Et je suis frappé de voir que Paul met l'homosexualité dans une liste au milieu d'autres problèmes qui caractérisent les pécheurs, d'autres problèmes qui sont tous en lien avec le brisement de la loi, avec le brisement du décalogue. Nous n'ignorons pas, dit-il, que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies, pour les pécheurs, pour les irreligieux et pour les profanes. On pourrait étudier ce texte dans le détail, mais tous ces termes décrivent des hommes qui s'opposent délibérément à Dieu, qui refusent délibérément d'honorer Dieu. Les sacrilèges, par exemple, C'est ceux pour qui rien n'est sacré. Ni le nom du Seigneur, ni le jour du Seigneur. Tous ceux qui brisent allègrement les quatre premiers commandements du Décalogue. Les parricides qui brisent le cinquième commandement du Décalogue. Les meurtriers qui brisent le sixième commandement du Décalogue. Les impudiques, les infâmes, les débauchés, les homosexuels qui brisent à leur manière le septième commandement du Décalogue qui protège le couple et la sexualité. Les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures qui évoquent les derniers commandements du Décalogue, ne pas dérober, ne pas dire de faux témoignages contre son prochain, ne pas convoiter. Ce qui me semble ici, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ce qui me semble, avant de conclure cette première partie, c'est que l'homosexualité est aussi coupable au regard du Décalogue que l'acte adultère hétérosexuel ou que le mensonge ou que le faux témoignage ou que la convoitise ou que le fait de ne pas honorer Dieu ou son prochain comme on le devrait. Et pourtant, je sais, quand je lis ces textes, que certains de ces péchés mentionnés par Paul ne nous semblent à nous pas très menaçants en tant que chrétiens. Je pense qu'on est assez peu porté sur le parricide. On pourrait dire qu'on est même assez peu porté sur l'idolâtrie, bien que l'idolâtrie, ça reste à voir, hein. Quand on sait que la cupidité est une forme d'idolâtrie, je crois qu'il peut même y avoir du danger pour nous les chrétiens. Mais d'autres péchés que ceux qui apparaissent dans cette liste-là ou dans les listes du Nouveau Testament constituent toujours une menace pour nous. Et la chute est toujours à notre portée. N'oublions pas cette parole du Christ parlant des villes et des lieux où les hommes avaient rejeté son témoignage, avaient fait preuve d'une immense incrédulité, et où il dit, Matthieu 10, verset 15, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » L'incrédulité pour Jésus ici est plus importante que ce qu'il avait à reprocher à Sodome et Gomorre. L'incrédulité. Matthieu 11, versets 23 à 24. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ton incrédulité te coûtera plus cher que les pratiques ignobles de Sodome. Quand je considère ces choses, moi, je reconnais qu'en tant qu'hétérosexuel, j'ai, moi, assez de faiblesses et de limitations pour ne pas avoir envie de regarder de haut ceux qui ont des tendances homosexuelles. J'ai tellement à faire dans ma vie. Paul a eu plus à dire sur les divisions, sur les comportements de ceux qui provoquent les divisions dans l'Église, sur le manque d'amour, sur le manque d'humilité, sur l'esprit de parti ou sur la vaine gloire, que ce qu'il a pu dire sur les péchés sexuels. Je fais partie des chrétiens qui ont plutôt la conscience tranquille face au problème de l'homosexualité. Parce que cette tentation, honnêtement, ne m'a jamais effleuré. C'est une grâce pour laquelle je suis reconnaissant. Mais je dois être prudent, parce que combien d'autres tentations y compris dans le domaine de l'hétérosexualité, viennent m'assaillir. Je veux être prudent sur ma manière de juger les gens qui se battent avec d'autres tentations que les miennes. La question qui se pose, c'est quand Dieu jugera les responsabilités individuelles, selon les privilèges que nous avons chacun, chacune reçus, selon la connaissance de chacun, de chacune, selon les influences complexes de l'hérédité que chacun traîne avec soi. Où est-ce que j'en serai, moi, Bibi ? Où est-ce que j'en serai ? Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Je conclue cette première partie, je vous remercie pour votre patience avec quelques très courtes pistes de réflexion. La première, c'est que nous devons garder conscience que la Bible condamne clairement l'homosexualité comme un acte contre nature, contraire à la volonté de Dieu exprimée pour l'homme et pour la femme dès la création du monde, puis dans sa loi, puis dans les textes du Nouveau Testament. Les textes qui sont négatifs et qui dénoncent l'homosexualité sont d'ailleurs confirmés par des textes positifs qui décrivent, eux, le projet de Dieu pour l'homme et pour la femme, unis par les liens du mariage. Et on est pécheur, quelle que soit la forme de sa désobéissance à la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Tout pécheur, n'importe quel pécheur, a besoin de réaliser son péché, a besoin de se repentir, a besoin de confesser son péché, a besoin de pardon et a besoin de délivrance. Tout pécheur. Ce qui me conduit à la deuxième affirmation, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui sauve. Nous avons affaire à un Dieu qui délivre. Nous avons affaire à un Dieu qui pardonne, à un Dieu qui entraîne dans une nouveauté de vie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas un mantra. C'est le rappel qu'un homme a payé pour que je ne paye pas. Il est mort pour que je ne meure pas. Il a été séparé de Dieu pour que moi, je ne sois jamais séparé de Dieu. Il me sauve. Il me donne sa plus grande bénédiction, là où je méritais sa plus grande condamnation. Et ça, c'est une vérité qui est glorieuse. Nous devons l'annoncer à tous les pécheurs. Il y a un chemin de salut pour quiconque croit. Et cette vérité, elle est particulièrement soulignée dans la suite du texte de Paul que nous avons déjà mentionné, en 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. On a déjà lu les versets 9 à 10. On s'est arrêté juste avant le verset 11, mais il faut le lire ce verset 11. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu, nous avons affaire à un Dieu qui nous sauve. Les homosexuels ont affaire à un Dieu qui veut les sauver. Nous, avec toute la complexité de nos vies, nous avons affaire à un Dieu qui nous a sauvés et qui veut nous sauver. Ce texte que nous venons de relire proclamait dans un monde où l'homosexualité était déjà un vrai problème, qu'il y avait eu délivrance de tous les péchés énumérés dans ce texte, y compris le péché de l'homosexualité. C'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Troisième remarque donc, c'est que le témoignage de délivrance doit être pris en compte alors que nous réalisons qu'il y a dans le domaine de l'homosexualité, comme dans d'autres domaines, mais dans le domaine de l'homosexualité en particulier, de rudes combats à mener. Pour un averti, tout spécialement, parce que le problème est plus difficile, plus douloureux à affronter que pour celui dont le comportement est dû ouvertement à une rébellion choisie. Pour celui dont le comportement est dû à une rébellion choisie, assumée, quand la repentance intervient, généralement elle apporte au même moment la guérison au comportement perverti, volontairement provocateur. Même si dans la mémoire et dans la chair, le souvenir de ce qui a été fait continuera probablement à alimenter certains regrets. Mais le pardon intervient. Je l'ai vécu avec plusieurs à Ville-Lagan. Le pardon intervient. Une vie nouvelle peut être envisagée, même dans le domaine de la sexualité, même si tout n'est pas automatique. J'en reparlerai en deuxième partie d'après-midi. Enfin, l'hétérosexuel doit lui aussi veiller. Et c'est ma dernière remarque. La sexualité hétérosexuelle vécue hors mariage est tout aussi condamnée par Dieu que l'homosexualité. Il ne faudrait pas grossir la gravité d'un penchant en oubliant que l'Écriture ne fait pas de différence dans le Nouveau Testament dans sa condamnation de l'homosexualité, de l'adultère et de toute relation sexuelle en dehors du mariage. Tout cela porte atteinte gravement au couple, à la famille, à la société, au bien que Dieu nous veut, même dans notre sexualité. Ceux qui ont des tendances homosexuelles peuvent avoir l'impression, non sans raison, que les chrétiens évangéliques ne sont pas prêts à les traiter comme n'importe quel autre être humain pécheur par nature. Certains chrétiens se sont montrés durs, méprisants face aux personnes souffrant de ces problèmes ou revendiquant simplement une tendance homosexuelle. J'ai déjà remarqué qu'une simple apparence, un simple geste peut conduire parfois à cataloguer quelqu'un qui sera regardé de travers. Et ce sont aussi les familles que l'on juge parce qu'elles continuent d'aimer, de recevoir, d'entourer leurs parents, leurs enfants concernés par ces problèmes. Cette attitude-là, faite de propre justice, d'orgueil, de jugement, est aussi fausse et grave que de laisser croire que l'Écriture tolère l'homosexualité. Enfin, la sexualité touche à ce qui est le plus intime, le plus secret. C'est au fond de la personne humaine. C'est délicat d'en parler. Il faut essayer de faire preuve d'amour, de tact, de compréhension, autant que de fermeté. Et j'essaye de traiter ce sujet dans cet esprit-là. Dans tous les cas, si nous devions croiser, nous, le chemin de personnes directement concernées par ces questions, que Dieu nous donne une excellente qualité d'écoute, avant de dire la vérité de sa parole avec amour. Qu'il nous aide à prendre le temps nécessaire pour le faire avec patience, en étant réellement attentif à la souffrance de notre prochain qui mène peut-être un combat douloureux avec lui-même ou avec un de ses proches. Voilà pour quelques premières remarques. J'ai dépassé de 5 minutes le temps qui m'était imparti. Je serai plus court sur la deuxième partie, mais si sur cette première partie il y a des questions, des remarques, des désaccords, n'hésitez pas à les dire. Je ne viens pas pour vous imposer une lecture. De toute façon, vous êtes assez grand pour prendre de la distance. Ce que je vous propose en deuxième partie, c'est concrètement reparler de quelques données historiques et puis voir comment nous pouvons, dans nos églises, accueillir, accompagner des personnes homosexuelles. C'est plus voilà, la pratique que nous avons pu vivre dans notre église locale. Questions, remarques? Oui.
J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois répondre à une personne qui me dit c'est inné chez eux, ils n'en peuvent rien, ils se battent, ils souffrent et tout. Alors, bon, on peut leur dire, bien sûr qu'on prie pour eux, on les entoure, et ça m'est déjà arrivé une fois de le faire. Mais à cette personne qui met ça sur le compte, que c'est des gènes et tout, à la limite, c'est presque la faute à Dieu, parce qu'il a mal été fait, cette personne. Alors, qu'est-ce que je vais lui répondre ?
Alors, ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est que ces situations, elles induisent beaucoup de souffrance. C'est à ce qu'on dit, hein, et puis des fois on est un petit peu dans la provoque et tout ça, mais à ce qu'on vit. Donc je ne cherche pas à répondre tout de suite. Là où j'arrive, c'est que moi, mes gènes à moi me conduisent à du péché, parce que je suis un homme pécheur. Mais que rien ne le justifie. Par exemple, rien ne justifie que je me mette en colère. J'ai la colère facile, j'ai l'emportement facile, disons. Ça ne justifie rien. Mes gènes, mon héritage, ce que j'ai vu chez mes parents, ma tendance naturelle n'excuse rien. Si la Bible, qui est la loi morale, estime que je commets un péché en me mettant en colère, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui fait une lecture, c'est la Bible qui me lit, ce n'est pas moi qui la lis, c'est elle qui me lit. C'est généralement le genre de réponse où j'essaye d'arriver. Mais, sauf quand on est dans la provoque, parce que des fois on est dans ces discussions de provocation, c'est vachement pénible, hein, vous savez comment c'est, ce n'est pas les discussions que je préfère. Généralement, je ne réponds pas ça tout de suite. J'essaie de comprendre le combat de la personne et d'essayer de comprendre en particulier est-ce que c'est vraiment inné. Est-ce que la personne peut me dire, les yeux dans les yeux, moi, je n'ai jamais rien choisi. Ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Ou est-ce qu'on pourrait définir qu'il y a eu dans son parcours des éléments qui auraient pu le provoquer ? Pas faire un cours de relation d'aide maintenant. Moi, je pense que s'il y a eu dans un parcours des événements qui ont pu provoquer l'homosexualité, et ma compréhension des choses, c'est que dans le 90% des cas, c'est le cas, il y a des éléments qui ont provoqué, je pense qu'il y a des délivrances qui sont possibles. Là, on est dans la pratique pastorale, hein, mais je pense qu'il y a des moments où on remonte dans l'histoire pour dire, regarde, là, il y a eu un nœud, ce nœud, avec l'aide de Dieu, on va le défaire. Dans ma pratique, je vous ai dit, hein, je pourrais vous raconter des histoires détaillées des gens que j'ai rencontrés. Moi, à Ville-la-Grand, en 17 ans, j'ai accompagné une trentaine de personnes homosexuelles. Certains se sont convertis, d'autres pas. Sur la trentaine de personnes homosexuelles, deux seulement, quand on a discuté sérieusement, me disent « c'est inné ». D'aussi loin que je me souvienne, je suis fait comme ça. Pour les 28-27 autres, parce qu'il y en a un où c'est un cours maintenant, on remarque dans un parcours des événements qui l'ont provoqué. Et ma pratique pastorale, c'est de revenir aux éléments qui l'ont provoqué pour demander la délivrance de Dieu, qui est un Dieu qui délivre. Alors ça ne veut pas dire, j'y reviendrai, ça ne veut pas dire que ça résout tout, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui deviennent hétéros du jour au lendemain, ou qu'ils ne le deviendront jamais, j'y reviendrai. Mais je suis convaincu qu'on peut être homosexuel non pratiquant. Convaincu qu'on peut être colérique non pratiquant. Qu'on peut être alcoolique non pratiquant. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est quelques éléments comme ça rapidement, hein.